Radio Spirale.
Intitulé « Les réseaux sociaux, une représentation du monde », la 60e entrée libre de jeu s'est déroulée le 16 mars 2015 à la librairie Le Port de Tête sur la rue Mont-Royal-Est à Montréal. Animée par Christian Saint-Pierre, rédacteur en chef de la revue Jeu, la discussion réunissait Guillaume Corbeil, auteur, Catherine Matisse, chroniqueuse techno, blogueuse et chargée de cours à l'UQAM, ainsi que Philippe Saint-Germain, essayiste et professeur de philosophie au Collège Hansick.
59 discussions publiques thématiques autour du théâtre, 59 tables rondes animées ou co-animées par Michel Vaïs. Je tiens à prendre le temps de remercier Michel d'avoir déclenché tous ces débats, d'avoir posé toutes ces questions, d'avoir lutté contre le statu quo, contre les idées reçues, contre l'isolement et la résignation, en somme d'avoir permis aux professionnels du théâtre québécois de s'asseoir à la même table pour parler et écouter, croiser leurs points de vue et apprendre les uns des autres. Pour tout ça, Michel, un grand merci. Et je suis très heureux de savoir que tu es là en plus. Je pensais faire ça en ton absence. Voilà. Ce soir, j'ai donc l'honneur d'animer la 60e entrée libre de jeu, une discussion consacrée aux réseaux sociaux en tant que représentation du monde. Cette discussion s'inscrit bien entendu dans le prolongement du dossier que nous venons de publier à propos de la présence des réseaux sociaux sur les scènes du théâtre québécois. Ce soir, pour explorer la question en termes théâtraux, bien entendu, mais aussi et peut-être même surtout en termes philosophiques et sociologiques, j'ai fait appel à Guillaume Corbeil, Catherine Matisse et Philippe Saint-Germain, que je vous présente. Guillaume Corbeil, à l'extrême gauche, a terminé en 2011 sa formation en écriture dramatique à l'École nationale de théâtre du Canada. Depuis, il a écrit pour la scène Le Mécanicien, Tu iras la chercher et Nous voir nous. Ce dernier texte était présenté à l'Espace Go en 2013, dans une production du Théâtre Pape sous le titre « Cinq visages pour Camille Brunel ». Ça a valu à Guillaume le prix de la critique remis par la QCT, le prix Michel Tremblay remis par le CEAD et le prix du public au Festival Primeur, et là, pardonnez-moi la prononciation, à Saarbrücken en Allemagne. En septembre 2014, il a été créé en allemand au Theater der Jungenwelt à Leipzig.
Oui.
Pas si mal? Bon.
Ah oui, ton allemand est...
Voilà, c'était pour Guillaume. Catherine Matisse, à ma gauche, est titulaire d'une maîtrise en communication, journaliste, chroniqueur et animatrice. Elle est spécialisée dans la couverture et l'analyse des transformations technologiques. Chroniqueur techno à La Sphère, à Ici Radio-Canada Première et à Entrée Principale, à Ici Radio-Canada Télé. Elle est également chargée de cours à l'UQAM où elle donne le cours « Technologie des médias socio-numériques » dans le cadre du nouveau certificat en communication socio-numérique des organisations. Oui, ça existe. Philippe Saint-Germain, à ma droite, est professeur de philosophie au Collège Hansick à Montréal. Il a publié 3 essais aux éditions Liber, « La culture des contraires, éclectisme, syncrétisme et bricolage » en 2011, « La culture recyclée en 10 chapitres réutilisables » en 2012 et, le plus récent, « L'imaginaire de la greffe, le même et l'autre dans la peau » en 2015. Ses recherches mêlent volontiers les genres et les disciplines et accordent beaucoup d'importance et de place aux arts. Voilà pour mes 3 invités. La soirée va se dérouler en 3 temps. Tout d'abord, mes 3 invités vont s'exprimer chacun à leur tour pendant une dizaine de minutes pour exposer l'état actuel de leurs réflexions sur les réseaux sociaux. Je lancerai ensuite la discussion en leur posant quelques questions qui me taraudent et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Donc voilà, vous savez que j'ai beaucoup de questions, mais on n'est pas obligé de toutes les traverser non plus ce soir.
On va toutes répondre à tes questions.
Oui, hein? Ça va m'aider beaucoup.
Ah,
ça va être fait. Puis, ce sera à votre tour de leur poser des questions. Vous pourrez leur demander d'approfondir un aspect de leur réflexion, les entraîner dans une voie nouvelle et peut-être même signaler quelques paradoxes et quelques contradictions ici et là. Ça nous arrive tous et c'est ce qu'on aime. Voilà. Donc, Philippe, d'abord, je pensais que tu pourrais... J'ai décidé de cet ordre-là pour faire, bon, disons, passer de la philo à la socio, puis de la socio au théâtre, et s'il faut absolument créer une hiérarchie entre les choses. Voilà. Mais oui, ça va t'aider.
Merci. Donc, ce que je vais essayer de faire dans cette petite intervention solo-là, ça va être d'établir des liens entre le domaine pour lequel je pense qu'on m'a invité, qui est la philosophie que j'enseigne, et les réseaux sociaux, qui est le sujet qui nous réunit ce soir. Puis je vais peut-être, ce faisant, ouvrir un dialogue avec le théâtre, mais que je ne vais pas approfondir, entre autres, parce qu'il y a au moins quelqu'un ici qui est mieux placé que moi, Guillaume, pour parler de ça. Mais aussi peut-être parce qu'on pourra y revenir un petit peu plus tard. Donc, Le thème philosophique, à mon sens, qui est le plus important et pertinent pour aborder le thème des réseaux sociaux, c'est certainement celui de l'identité, qui est un thème qui a été abordé par un paquet de philosophes depuis les débuts de la philosophie. On peut remonter, par exemple, au fameux « Connais-toi toi-même » associé à Socrate, qui sous-entend, entre autres choses, qu'avant de se lancer dans une quête effrénée de connaissances, bien, il faut commencer par examiner un peu qui on est, prendre l'être humain comme un objet d'étude, essayer de voir bon, qui il est, qu'est-ce qu'il peut accomplir, qu'est-ce qu'il peut connaître et comment il se perçoit. Donc, il y a énormément de philosophes qui en ont parlé. Rassurez-vous, je ne vais pas résumer ce que les philosophes ont dit là-dessus. Ce serait pénible pour moi comme pour vous. Disons que je vais isoler l'approche philosophique de l'identité qui, à mon avis, est la plus pertinente. C'en est une que j'ai déjà abordée avant. C'est l'identité narrative qui est surtout associée au philosophe français Paul Ricoeur, qui est mort en 2005, et qu'il a développé dans quelques livres, dont deux en particulier, qui ont des titres qui me semblent significatifs, même les titres pour ce qui nous occupe. Le premier, c'est « Temps et récit », donc en trois tomes, mais c'est dans le dernier tome surtout qui annonce un peu cette thématique-là. On isole déjà le récit, personnage, intrigue, événement. On aura l'occasion d'y revenir. Et l'autre livre, pour moi, c'est un des titres les plus beaux de l'histoire de la philosophie. Je ne sais pas si ça va être partagé ici, mais c'est un titre aussi qui peut, sur lequel on pourra revenir plus tard, « Soi-même comme un autre ». Donc, ça a paru en 1990. Puis c'est déjà une manière de voir l'identité sous deux angles complémentaires. L'identité, c'est clair qu'il y a l'identique là-dedans, l'identité numérique. On est une personne, peu importe ce qu'on va vivre au fil du temps. Mais ça autorise aussi une altérité, un mélange d'événements qui ne font pas toujours de sens à première vue, mais qu'on va essayer de ramener ensemble. C'est un peu ça l'identité narrative. Si je peux la résumer, là, juste pour l'instant, en deux phrases qui pourraient être approfondies un peu plus tard, c'est au fond de comprendre l'être humain comme un personnage et sa vie comme une espèce d'intrigue avec ses événements qu'on va agencer, qu'on va mettre ensemble. Puis une manière aussi de saisir ensemble des éléments qui sont souvent très disparates et très, très divers les uns les autres. C'est sûr pour moi que c'est une approche qui est pertinente pour les réseaux sociaux, entre autres parce qu'il est question avec les réseaux sociaux, entre autres, de performance, de représentation. C'est deux thèmes, je pense, qui vont nous revenir souvent ce soir. On prend souvent des éléments dans le vécu. C'est sûr que je pense en particulier à Facebook, Twitter, Instagram, entre autres. Donc, on puise dans le vécu, des fois des situations très banales, mais il ne pourra pas y avoir vraiment un copier-coller de l'expérience sur Facebook, par exemple. Ça va toujours être un montage, un recadrage, de sorte que, oui, on puise dans le réel, mais en même temps, on va transformer ce réel-là. On va le reconfigurer pour essayer de se comprendre, faire du sens aussi de ce qu'on a vécu, puis projeter à la fois pour soi-même et aux autres une certaine représentation de ce qu'on est. Et ça, justement, cette espèce de... ça implique des choix, ça, c'est comme un montage, au fond. Il y a des télescopages, on ne va pas raconter de A à Z. Il y en a qui peuvent essayer de le faire, de A à Z, ce qu'ils ont vécu. Mais souvent, ils vont isoler des moments, des images précises, que ce soit dans un statut Facebook ou sur Instagram ou ailleurs, isoler dans le réel une portion de ce réel-là, qui va soit parce que ça les... je ne sais pas moi, ça les montre sous leur bonjour, c'est exactement ce qu'ils veulent projeter aux autres, comment ils veulent se comprendre. Donc, il y a une narration qui a lieu à travers ça, qui transforme déjà le vécu. Puis ça, dans l'identité narrative de Ricoeur, c'est ça que ça implique la narration. C'est pas juste de prendre le réel puis de dire, là, je vais le mettre directement dans ce que je vais faire, dans mon roman, ma pièce ou mon statut Facebook. C'est sûr que lui n'a pas parlé directement des réseaux sociaux. C'est moi qui m'en sers un peu. Il y a une opération qui se fait à travers ça. Et ça, d'ailleurs, moi, je dirais que sa conception de l'identité narrative, elle a deux piliers au fond, qui permettent de bien la comprendre. Vous avez la fameuse mise en intrigue, dont j'ai déjà parlé un petit peu. Donc, une façon, puis ça, c'est pas étonnant de remarquer l'intérêt qu'une approche comme celle-là peut avoir quand on parle de théâtre ou de réseaux sociaux. En la développant, Ricoeur lui-même a puisé chez un philosophe grec qui s'appelle Aristote, dans un livre qui porte sur la poétique et la tragédie grecque, déjà. Donc, il s'intéressait à comment on construisait une intrigue, par exemple, dans une tragédie, pour aller chercher certains effets, pour convaincre. Puis le rapport aussi à l'action, parce que Aristote comprenait déjà la tragédie, la narration, comme ayant un rapport important avec le réel aussi. Donc, c'est pas nécessairement une imitation directe, mais c'est un réel qui est comme transfiguré, qui est adapté par ça. Donc, la mise en intrigue, c'est un agencement. C'est un peu ce qu'on peut faire aussi dans les réseaux sociaux à partir du vécu. On va ramener ensemble des événements qui, les uns les autres, peuvent avoir l'air très différents, mais ils sont arrivés quand même à une même personne. Donc, ça facilite un peu cet agencement-là. Donc, il y a une concordance qu'on va chercher, une synthèse à travers ça. Mais Ricoeur appelle ça une concordance discordante. Donc, ça n'atténue pas nécessairement les différences qu'il y a dans le récit ou les tensions, ces éléments-là. Ça, je pense qu'on peut associer ça peut-être dans les intrigues de fiction au suspense, par exemple. Des fois, il y a un mystère, il y a des choses qui ne sont pas toujours révélées d'emblée clairement, mais ça ajoute quand même à la compréhension qu'on a de tout ça. Est-ce que l'agencement peut faire ressortir? Il y a peut-être un caractère un peu universel ou nécessaire à des événements qui auraient pu se dérouler autrement. T'sais, ce que j'ai vécu, c'est en lien avec les choix que j'ai pu faire, avec la trajectoire que j'ai eue. Puis en les racontant dans cet ordre-là, je donne l'impression que c'est l'ordre que ça devait avoir. C'est comme quand on regarde une intrigue de fiction qui est très bien ficelée, on se dit que ça n'aurait pas pu se passer autrement, mais ça résulte quand même de choix, là, puis de décisions. Mais c'est la même chose, une identité comprise sous l'angle de la narration, il y a eu des choix qui se font, il y a un montage qui est là. Donc Ricoeur s'intéresse quand même à des modèles de fiction, entre autres il va parler à La recherche du temps perdu de Proust, Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Il s'intéresse au récit à la fois dans le rapport à la vie, dans la fiction, dans l'histoire aussi. L'autre élément, c'est le deuxième pilier, c'est le deuxième et dernier que je veux aborder. Donc, il y a la mise en intrigue, mais il y a ce que Ricoeur hérite d'un mot grec quand même assez important de l'histoire de la philosophie aussi, la mimésis, qui est souvent traduite par imitation, mais que Ricoeur emploie peut-être d'une façon un petit peu plus large, comme une représentation. Donc, ce n'est pas nécessairement, encore une fois, un décalque ou un copier-coller, c'est un réel qui est pris et qui, en étant raconté, est transformé en même temps. Donc, on n'est pas dans la copie pure. Puis ça, c'est sûr que l'imitation, je pense que dans les réseaux sociaux, il y a tout un ensemble d'éléments qui peuvent faire penser à ça. Tout ce qui est partage d'un contenu préexistant, par exemple, ou un retweet sur Twitter. C'est sûr que des fois, il y a question de copier-coller, mais en même temps, en faisant suivre un message ou en partageant ça, ça dépend de qui le partage aussi. Ça peut peut-être donner un autre sens ou donner une extension plus grande. Donc, on n'ajoute pas vraiment de nouveaux stocks sur de nouvelles choses sur ce partage-là, mais du fait que telle personne le partage ou que ça va dans tel courant ou dans telle communauté, il y a quelque chose qui se transforme dans le phénomène de base. Donc, pour lui, c'est pas, quand il parle de mimésie, c'est pas une imitation stricte. C'est une transposition, c'est quelque chose qui est plus créatif. Puis il préfère parler justement d'imitation créatrice. Donc, je ne sais pas à quel point il y en a qui sont familiers avec l'histoire de la philosophie, mais l'imitation, chez Platon par exemple, là c'est vraiment sous l'angle de la copie, du rapport au modèle. Il faut être fidèle à l'original, sinon on chute vers le faux et quelque chose qui n'est pas bien. Chez Aristote, c'est peut-être pas tout à fait ça, puis chez Ricoeur non plus. Donc lui, il prend plutôt le relais d'Aristote là-dessus. Donc c'est peut-être, quand je dis que ça pointe vers le théâtre, pour moi, c'est un peu ça que je veux dire, c'est que ça permet peut-être de sortir justement des couples de contraires comme le vrai, le faux, le réel et le fictif. Il y a un réel qui peut être transfiguré, transformé. Puis quand on entre dans le champ de la représentation, c'est un peu ça que ça permet. Donc on ne dit pas parce qu'on est devant une pièce de théâtre qui ne s'est pas produite dans la réalité qu'on va partir après deux minutes en se disant « voyons, ça s'est jamais déroulé, donc j'aime pas ça ». Non, il peut y avoir un effet de réel et de vérité qui est un peu différent. Puis ça, les arts, c'est sûr que ça ouvre tout ce champ-là. Mais je pense que même dans la philosophie, parfois, qui a la réputation des fois de tenir les arts à distance peut-être un peu, puis de viser le vrai et de négliger tout ce qui échappe un peu à ça, il y a des approches un petit peu plus polyvalentes là-dessus. Je pense que celle de Ricoeur en offre un bon exemple. Donc, qui ouvre sur le théâtre, mais qui aussi permet de comprendre certains éléments, je pense, dans les réseaux sociaux. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant.
Merci. Alors, maintenant, Catherine?
Oui, ben oui.
Je sais même pas si j'ai le droit de parler. Hein? Non,
je vais y aller.
Vas-y.
Oui, effectivement, discours très érudit de mon collègue ici. Moi, je vous emmène un peu sur une piste différente. En fait, on est ici pour parler de théâtre, parler de réseaux sociaux, donc je vais vous parler d'un film. En fait, c'est que j'ai été inspirée quand j'ai vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, le film Birdman de d'Iñárritu, donc celui qui a gagné l'Oscar du meilleur film cette année.
Mini-sondage ici, mini-sondage.
C'est pas grave, si non. Vous ne l'avez pas vu, on risque de se comprendre quand même. Oui. Mais vous allez peut-être avoir le goût de le voir par la suite. On y raconte en fait le rêve d'un acteur de film, une vedette de Hollywood, qui veut monter une pièce sur Broadway. Il joue sa carrière, c'est son rêve, il veut absolument monter cette pièce-là. Et là, il y a toutes sortes de personnages. Il y a sa fille qui joue aussi le rôle de son assistante. Et elle représente une autre génération. Elle, c'est la génération, justement, médias sociaux. Et pour elle, entre autres, on n'existe pas si on n'existe pas sur les médias sociaux. Donc, son père, en quelque sorte, n'existe pas. Et ça, elle lui rappelle, d'ailleurs, à plusieurs moments dans le film.
Mais jour suprême, c'est t'as même pas de page Facebook.
Oui, oui. Non, c'est inadmissible, en fait. Il peut... C'est pour ça qu'il y a un peu un pied de nez intéressant entre la fiction et la réalité dans ce film-là, parce que le film s'appelle évidemment Birdman, en référence à la carrière de Michael Keaton en tant que Batman. Donc, il y a tout ce jeu entre la fiction et la réalité, donc de cette vedette de Hollywood qui veut en quelque sorte se récupérer, se racheter en faisant quelque chose de valable, entre guillemets, en devenant cet acteur de théâtre sur Broadway. Et donc, c'est ce qu'il tente de faire. Donc, ça commence avec cette espèce de conflit de génération qu'on remarque là, dans le scénario. On veut essayer de réconcilier justement ce monde très cru du théâtre. Je dis cru parce que c'est le théâtre représente ce qu'on cherche à proposer de plus authentique, si on veut. Disons que on n'est pas dans l'artifice quand on parle de théâtre dans ce film-là, alors que on l'oppose avec le monde plus intangible des médias sociaux, évidemment, où là, on est presque toujours dans l'artifice, ou en tout cas dans la mise en scène vraiment à outrance. Donc, dans le film, le théâtre prend une espèce de forme anachronique d'être au monde. C'est un peu comme ça que je l'ai perçu. D'ailleurs, il y a un des personnages principaux qui le dit bien, à un moment donné, à la vedette qui tente de monter sa pièce sur Broadway. Mais à quoi ça sert, ce que tu fais vraiment? Pourquoi tu fais ça? Monter une pièce désuète d'un auteur mort depuis 60 ans, qui n'a pas grand-chose à raconter. Et,
Raymond Carver, pour ne pas le nommer.
C'est sa nouvelle, c'est pas une pièce de lui. C'est une nouvelle que Michael Keaton a adaptée. Lui-même.
Bon, voilà. Mais bref, il y a comme cette espèce de discours sur pourquoi avoir choisi ça. Pourquoi avoir choisi ça? C'est pas si pertinent que ça, finalement. Et ça, c'est le personnage d'Edward Norton qui dit ça. Donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que s'il dit ça, en tout cas, ça, c'est vraiment ma façon de percevoir ce film-là, mais justement, si vous l'avez vu, on va pouvoir en discuter. C'est que le personnage d'Edward Norton applique la grille d'analyse des médias sociaux au théâtre, ce qui est très difficile à faire, à mon sens. Donc, on applique la grille d'analyse d'un média social qui est basé sur l'instantanéité à l'espèce de tradition du théâtre, l'espèce d'ancrage beaucoup plus, disons, historique du théâtre. Donc, il y a là, à mon avis, deux grilles d'analyse assez difficiles à réconcilier. On oppose il y a la question de l'auditoire dans les médias sociaux. L'auditoire qui est, pardonnez-moi l'expression, passif. Il n'est pas passif, OK? Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne crée pas de contenu, l'auditoire du théâtre. On lui demande d'absorber finalement le contenu qu'on lui présente. Contrairement, complètement, aux médias sociaux où non seulement on vous demande de contribuer du contenu, on vous demande d'avoir une conversation constante avec les créateurs de contenu si vous n'en produisez pas vous-même. Donc, on est vraiment dans deux mondes complètement différents qu'on met constamment en opposition dans ce film-là. Le film met aussi en lumière quelque chose que j'ai trouvé très intéressant de ce point de vue-là parce qu'on parle toujours en filigrane, selon moi, dans ce film-là, du besoin de reconnaissance. Et s'il y a quelque chose que là, le théâtre et les médias sociaux peuvent se reconnaître, se rejoindre, en tout cas, c'est dans cette espèce de quête de reconnaissance-là, évidemment pas de la même façon, mais il y a cette recherche d'estime de soi, d'estime sociale, et les médias sociaux sont présentés évidemment, d'une façon, disons, plus rapide d'accéder à cette reconnaissance, d'accéder à cette espèce d'estime de soi. Hein? On l'a vu tout à l'heure, il suffit de se mettre en scène un peu sur notre page Facebook pour tout de suite avoir la reconnaissance de l'autre. J'ai reconnu que tu, non seulement que tu existais, mais que ce que tu disais est intéressant et que je valide un peu ton existence, tout simplement, parce que j'y participe en tant que spectateur, entre guillemets. Donc, c'est intéressant, donc, encore une fois, d'opposer cette façon d'être reconnue dans les médias sociaux et cette façon d'être reconnue au théâtre. C'est un peu comme si le théâtre, dans le film toujours, c'était un peu peine perdue. C'était un peu dommage de mettre autant d'énergie, autant de temps dans quelque chose qui, finalement, ne donnera pas tant de reconnaissance que ça. C'est un peu comme si c'était perdu d'avance. Hein?
D'ailleurs, ils répètent toujours qu'il y a 800 places. Dans le théâtre. Il y a juste 800 places. Pour ça. Ça nous apparaît beaucoup, là, mais pour eux, c'est négligeable. Pourquoi on s'adresse à 800 personnes chaque soir?
Alors que lui est habitué de faire des millions d'entrées au box-office, c'est ça. Donc, pour reprendre Cyrano, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Hein? C'est un peu ça. C'est un peu comme ça qu'on nous présente ça. Revenons sur cette notion de reconnaissance. Si jamais vous voyez le film, peut-être que vous allez le remarquer, étant donné qu'on en parle ce soir, mais j'ai trouvé que tous les personnages du film cherchaient en quelque sorte un type de reconnaissance. Il y a la vedette principale, évidemment, qui veut une espèce de validation, parce que jusque-là, et il y a une journaliste qui lui rappelle bien d'emblée d'ailleurs, il n'est qu'une vedette. Et c'est facile d'être une vedette. C'est une vedette de cinéma. Les caméras s'allument, il n'y a rien à faire, tout le monde travaille pour lui. Il a juste besoin de sourire ou de dire sa phrase. Et c'est facile. Là, le théâtre, il ne peut pas se cacher derrière un artifice, il ne peut pas se cacher derrière toute une montagne technique pour essayer de circonscrire son talent. Donc, lui cherche cette reconnaissance-là d'un vrai public, d'un vrai auditoire. Et c'est là que le théâtre prend toute sa force, finalement, dans le film. Il sort avec une jeune actrice qui, elle, aimerait donc qu'il la trouve bonne, qu'elle la trouve belle, qu'elle la trouve talentueuse, etc. Donc, elle cherche sa reconnaissance à lui parce que c'est une grande vedette. Puis bon, ben, coudonc, elle aimerait exister dans ses yeux à lui. Il y a la fille du personnage principal qui aimerait donc que son père reconnaisse sa propre valeur à elle, parce qu'effectivement, elle se sent un peu dans l'ombre de ce père vedette. Et dans cette quête de reconnaissance-là de tout le monde, ben, il y a cette quête d'authenticité. Et ça, c'est une autre thématique, à mon avis, qui est très importante et qui nous permet aussi de rallier deux mondes, ceux du théâtre et des médias sociaux. On le dit, on le sait, on se met constamment en scène dans les médias sociaux. On choisit, comme le disait Philippe, ce qu'on raconte et la façon dont on va le raconter. Et ce qu'on voit dans le film, c'est que les comédiens, c'est un peu un paradoxe, ils ont du mal à être authentiques sur la scène comme dans la vie. On essaie de... vraiment d'opposer, on a l'impression de toucher à une forme d'authenticité quand on est sur les réseaux sociaux, et c'est très difficile de l'atteindre quand on est dans un monde plus réel comme celui du théâtre. Il y a plusieurs personnages dans le film, entre autres, qui incarnent cette idée-là. Par exemple, à un moment donné, il y a l'acteur principal là, qui est en pleine représentation. Il n'est pas sur scène, il est en robe de chambre et il va fumer une cigarette et la porte de la loge se referme sur la robe de chambre. Et là, ben, il est un peu mal pris parce qu'il est à l'extérieur. Il ne peut plus revenir en dedans. Il n'y a personne qui lui ouvre la porte. Il est obligé de courir en sous-vêtements dans la rue.
Dans Times Square.
Pour revenir à la porte d'entrée principale de son théâtre où il est en représentation au moment même où on se parle. Et là, évidemment, c'est une vedette d'Hollywood, je vous le rappelle. Donc là, tout le monde voit une vedette d'Hollywood courir en sous-vêtements. C'est fantastique. C'est un moment YouTube comme on n'en voit jamais. Donc, les gens le filment, Et les gens mettent ça sur YouTube. Et là, tout d'un coup, cet homme-là qui essaie de fuir l'espèce de dictat hollywoodien du végétariat se trouve complètement rattrapé par ça. Donc, il ne veut pas être reconnu sur les médias sociaux parce qu'il a couru en bobette dans la rue. Il veut être reconnu parce qu'il essaie de monter une pièce qu'il trouve valable et qu'il aimerait bien que les gens reconnaissent.
C'est là que sa fille a dit « That's power, Dad ».
Oui, c'est ça. Pour sa fille.
Il y a un nombre de vues incalculable sur sa
vidéo. Exactement. Pour sa fille, ça, c'est le pouvoir. Là. On y touche. Là. Pour sa fille, c'est ça qui est important, pas tellement la pièce. Ce que je trouve intéressant dans cette anecdote-là, c'est que... Encore une fois, on oppose le langage du théâtre et des médias sociaux. Les médias sociaux, c'est comme si l'authenticité était accidentelle, bien souvent. Récemment, on a fêté les 10 ans de YouTube. Dans les 10 vidéos les plus populaires de YouTube dans les 10 dernières années, bon, il y a beaucoup de musique, là, je vous le concède, évidemment, les gens consomment beaucoup de musique sur YouTube, mais... Un des 10, en fait, le seul qui n'est pas un vidéo de musique, c'est un vidéo d'un bébé qui mord le doigt de son frère. C'est tout. C'est tout. C'est une des vidéos les plus populaires des 10 dernières années, donc dans les top 10. On parle ici d'un moment complètement anodin, accidentel, entre guillemets, dans le sens que ça ne peut pas se prévoir. On n'a pas demandé au bébé de mordre le doigt de son frère, mais c'est arrivé. C'est ça. L'authenticité sur les médias sociaux, c'est souvent accidentel. Dès qu'il y a une espèce de forme de contrôle du contenu ou de mise en scène, on a l'impression de perdre cette espèce d'authenticité-là. On a l'impression de ne plus toucher à quelque chose de réel. Et évidemment, au théâtre, on essaie de mettre en scène quelque chose d'authentique, mais on l'encadre, on le fait de façon délibérée. On n'est pas sur les planches d'un théâtre par hasard. Il ne s'est pas passé un accident pour qu'on se retrouve dans une pièce ce soir-là. Donc, c'est... non, mais c'est vraiment, à mon avis, deux mondes.
C'est que les gens aiment ça quand les acteurs décrochent chez Duceppe.
Oui, par exemple. Sûrement, sûrement. Je trouve qu'on touche à un autre principe qui est celui d'extimité. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler. C'est quelque chose qu'on oppose un peu à l'intimité, mais ça ne devrait pas nécessairement être opposé parce que c'est autre chose, à mon avis. L'extimité, c'est la volonté de rendre visibles des sphères de notre vie qui devraient appartenir à l'intimité. Et ce que... En grande partie, ce que font les médias sociaux, c'est ça, c'est exhiber des parties de notre intimité, mais évidemment avec notre consentement. Les parents ont décidé d'enregistrer le petit moment entre les deux frères qui se mordent le doigt. Donc, y a pas, c'est pas arrivé complètement par hasard qu'on tombe là-dessus. Il y a quelqu'un qui est intervenu pour qu'on puisse... Oui, c'est ça, il y a une main extérieure pour qu'on puisse voir ce genre de choses-là. Mais tout ça pour dire que ça touche beaucoup à la viralité aussi, ce qui est populaire sur Internet versus ce qui est populaire au théâtre. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ce film-là, c'est que le film, je m'excuse pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais essayer de ne pas gâcher la fin, ok? Je travaille très fort en ce moment.
Spoiler alert!
Oui. Le film récolte de bonnes... Je veux dire, la pièce récolte de bonnes critiques à la fin. Donc, ça se passe bien pour le grand acteur d'Hollywood. Mais si ça se passe bien, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose sur scène. Il y a eu un accident sur scène. L'espèce, justement...
L'intrusion du réel.
Oui, ben, l'authenticité accidentelle, tant prisée des médias sociaux, s'est produite sur scène. Et donc là, les deux mondes du théâtre et des médias sociaux, en quelque sorte, se sont rejoints. Donc, je trouvais ça intéressant. La valeur de l'auditoire, la valeur de la critique, la valeur de la reconnaissance, c'est toutes des choses que j'ai perçues dans ce film-là, que je vous enjoins à voir si vous ne l'avez pas toujours pas vu, parce que vraiment, je trouve que c'est quelle belle façon de parler de deux mondes qui ne se parlent pas souvent ou qui ont de la difficulté des fois à entamer un dialogue. Je m'arrête là.
C'est fait, le dialogue est lancé, merci. Guillaume Corbeil, maintenant, qui va...
Oui, je vais vous parler de Mad Men. c'est pas vrai. Je savais pas trop comment vous aborder tout ça, parce que contrairement à mes collègues qui ont des outils pour aborder la question, moi, j'ai plutôt pris la question et j'en ai fait quelque chose. Et donc, je voyais pas trop... J'avais pas d'angle et de grille d'analyse pour aborder ça, mais je vais quand même partager certaines réflexions le plus humblement possible dans la peau d'un... d'un dramaturge qui essaie de faire quelque chose avec cette drôle de question-là. Parce qu'en fait, c'est ça, le projet de pièce est vraiment né en 2010, à l'époque où s'opérait vraiment cette révolution des réseaux sociaux et on commençait à avoir cette espèce de fascination à observer les comportements des gens autour de nous, de même prendre conscience de nos propres comportements et d'essayer de nommer ça. Des choses qui maintenant nous semblent très, très, très évidentes, qui en 2010 étaient vraiment naissantes. Et justement, je pense à ce que disait tout à l'heure Philippe, cette histoire-là de construire une identité, de pouvoir façonner sa propre image, d'avoir une scène, en fait, à sa disposition en permanence, qui était quelque chose de vraiment nouveau et de fascinant. Et donc, j'ai commencé à écrire cette pièce-là avec vraiment pas l'intention, mais oui, je me disais, ça va être une charge contre les médias sociaux. Dans ma tête, je partais en guerre contre cette histoire-là. Et c'est après coup, en fait, que c'est très étrange que j'ai comme... Je suis comme pas le premier dramaturge à dire ça, là, mais c'est comme après coup que j'ai vraiment mieux compris ce que j'avais fait. Et que finalement, que ce que je m'apprête à vous dire... Parce qu'en fait, donc c'est ça, la pièce est sortie en 2013. Et j'ai eu la première puce à l'oreille quand, après la première, à l'émission Médium Large, on m'avait invité. Et que pour ma première table ronde sur les réseaux sociaux, on avait invité...
Première d'une longue série.
On m'avait invité en compagnie de Gina Desjardins, qui était venue voir le spectacle. Et là, j'étais comme un peu sous le choc parce que c'était la première critique du spectacle et c'était une... c'était pas une critique de théâtre, c'était une représentante, pas une représentante, mais une chroniqueuse des médias sociaux. Et là, déjà, j'ai eu mon premier sourcillement, mon premier rapport d'étrangeté avec mon propre objet. Et je pense que ça a pris une autre tournure quand, la même année, donc, en fait, non, en 2012, ils ont fait une première version de la pièce qui s'appelait « Nous voir nous à l'École nationale », parce qu'en fait, ça se trouve être aussi ma pièce de finissant. Et une professeure de l'école, d'une école secondaire voit la pièce et me demande de lui écrire des scènes et des trucs pour ses étudiants, pour faire une pièce, parce qu'elle trouvait ça très d'actualité de parler des réseaux sociaux. Et le jour de la première, devant tout le monde, devant les enfants et les parents des enfants, elle fait « En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas Facebook. » Mais ce qu'on m'a montré quand j'ai regardé avec les élèves, j'ai trouvé ça assez horrible. Surveillez vos enfants. Et là, tout à coup, chose vraiment fascinante, moi qui avais comme commencé à écrire avec l'idée de faire une charge contre les réseaux sociaux, je me suis retrouvé à les défendre. Parce que ce que j'essayais de lui faire comprendre, c'était que les enfants... n'étaient pas devenus cruels parce qu'on leur avait donné l'opportunité de liker et de sharer des vidéos, que les enfants avaient été cruels de tout temps et que, en fait, pour moi, les réseaux sociaux, c'est d'abord et avant tout un accélérateur de comportement. Et donc, et puis j'ai marqué cette petite affaire-là aussi, que dans ma tête, c'est une conséquence et pas une cause et que souvent, on parle des réseaux sociaux comme un phénomène en soi et si je veux essayer de m'expliquer, en fait, ce truc-là, en fait, je pense que si on veut parler des réseaux sociaux, il faut se demander comment ça se fait que c'est né. Parce que quand c'est né, je veux dire, c'est ce petit truc anonyme d'étudiants de Harvard, c'est que quelque part, ça répondait à un besoin. Et quand je me replonge dans l'avant Facebook, et peut-être que je fais une équation simpliste, mais c'était quand même en littérature, là, je parle de littérature parce qu'à ce moment-là, j'étais un étudiant en littérature, mais l'émergence de toute cette autofiction, de ce désir de parler de « je », de « moi », qui avait déjà cette espèce de narcissisme en puissance qui allait nous mener à aujourd'hui. Donc pour moi, en fait, le narcissisme et cette affaire-là de tout ce qu'on nomme depuis tout à l'heure, c'est pas tant les réseaux sociaux qui l'ont créé, évidemment, tant que c'est venu répondre à ce besoin-là et c'est ce qui explique son succès, en fait. Donc, c'est une plateforme qui répondait à un besoin. Et pour moi, ce besoin-là, ben, c'est évidemment un spectateur. Je pense qu'aussi, c'est comme l'aboutissement de tout ce fantasme nommé par Andy Warhol, d'avoir son 5 minutes de gloire, d'enfin pouvoir passer à la télévision. Mais là, tout à coup, on était éternellement et sans arrêt en train d'être diffusé. C'est d'avoir quelqu'un qui me regarde et quelqu'un qui m'approuve. Et évidemment que là, si je veux refaire un lien, parce qu'on parle de théâtre et de réseaux sociaux, pour moi, l'équation était là. Et puis, elle est amusante de jouer justement avec le fait que des spectateurs sont dans la salle. Comme pour moi, Facebook est un théâtre. Et est un théâtre dans tout ce que ça a, un peu encore une fois, je vais répondre tous les mots savants de Philippe, parce que je l'écoutais parler, j'ai dit, ah mon Dieu, mais c'est ça ma pièce dans le fond. Mais c'est juste avec des termes plus brillants que si j'avais eu en 2013, ça serait vraiment mieux passé mes entrevues. C'est ça, avec tout ce que ça a de bimésis et donc de transformation de soi, de pouvoir de mise en intrigue, d'avoir la chance de se raconter. Et puis d'ailleurs, c'était toute la grande campagne de Facebook dans ces années-là, en 2012, c'était que Facebook n'allait plus juste être un média, mais que ça allait être aussi une biographie en temps réel. Ça allait très prochainement raconter ta vie. Et là, on avait tout à coup des images en Super 8. Okay, puis ça revient un peu à cette quête d'authenticité-là. Quand j'écrivais cette pièce-là, j'étais tombé sur un article vraiment génial qui s'appelait « La nostalgie du présent », qui pour moi est un des meilleurs titres autour de cette affaire-là, « La nostalgie du présent ». Et comme si tout à coup, de se raconter déjà sur le numérique, ça avait une valeur diminuée, mais là, c'est en Super 8. Fait que c'est vieux, c'est ancien, c'est plus authentique et ça donne une valeur à cette affaire-là qui est faite avec des iPhones et qui n'a pas de valeur en soi parce qu'il y en a des milliards puis que ça se perd puis qu'on le délite.
Et Facebook fait ça constamment, hein? Des vidéos qui résument notre année, qui résument notre mois. Là, maintenant, c'est les liens, je sais pas si vous avez vu, avec des personnes. Ça fait 6 ans que vous êtes amis avec telle personne. Donc, on crée des anniversaires entre deux personnes.
C'est ce grand fantasme du timeline qui remonte jusqu'à un petit dessin de bébé en couche. Oui. Que si on voulait décider de boucher les trous pour l'avant et puis un jour être tout raconté. Parce que c'est sur ça, en fait, que ces réseaux sociaux-là font leur capital. C'est sur notre désir, notre besoin d'être compris, d'être raconté, d'avoir un œil posé sur soi qui nous ramène... En tout cas, j'avais fait l'équation un peu simpliste, mais que parce qu'en fait, ça venait d'une émission de Bazo que j'avais vue qui comparait Facebook à une grande église où on montre à qui on se parle, à qui on parle, on montre à côté de qui on s'assoit, et dans ce que ça a de fédérateur d'une société, mais aussi de... cette grande quête d'un œil posé sur soi pour donner un sens à sa vie. Je terminerai en fait avec cette espèce de question-là à laquelle qui m'est venue tout à l'heure en prenant quelques notes, sur ce spectateur-là, en fait, qui est fascinant en ce moment parce qu'en fait, on a donc tout ça répond à notre besoin d'être vu et d'être regardé, mais comme on est des milliards, en fait, on est 2 milliards maintenant, c'est ça, sur Facebook, à se raconter, bien, en fait, on se noie dans une mer d'anonymat. Mais il n'en demeure pas moins que ce spectateur-là est là, mais il y a comme une dépersonnalisation ou une dématérialisation du spectateur où le réseau devient le spectateur lui-même. Puis c'est un truc que moi, je m'amuse beaucoup à réfléchir sur ça. Puis là, tu sais, je vais faire un lien racoleur en disant que c'était un peu le truc qui m'orientait dans mon sequel de 5 visages, qui tu iras la chercher, qui est ce spectateur-là aujourd'hui? On prend des photos. Et puis, en fait, cette question-là, je m'en suis vraiment rendu compte quand je travaillais sur Tu iras la chercher avec quelqu'un, donc un coach à l'École nationale d'une autre génération. Puis il y a une scène, à un moment donné, pour ceux qui l'ont vu, où... la narratrice voit des gens qui prennent des photos de Prague, à Prague, sur le pont. Puis elle demande, mais pour qui est-ce qu'ils prennent ces photos-là? Elle me dit, mais c'est simple, elle prend les photos pour ses amis, pour les montrer après avec eux. Puis j'étais comme, il y a quelque chose dans cet acte de prendre une photo en 2013, à l'époque, qui n'est pas du tout la même chose, au sens où on ne prend pas la photo pour la montrer, on ne la prend même pas pour la regarder. On la prend juste parce qu'on a besoin de... mettre son monde dans un écran, parce que notre vie, on l'assiste dans des écrans, et en la mettant dans un écran, on lui redonne la même valeur, le même cadre que toutes les choses auxquelles on assiste.
journaliste récemment qui a écrit là-dessus puis qui a dit justement, on, c'est comme si on devenait touriste de notre propre vie.
Chris, c'est ma phrase dans mon show.
Je suis désolée.
Donc voilà, à qui est-ce qu'on s'adresse? Et j'ai l'impression que c'est ça, cette grande quête de spectateur-là qui est vraiment en train de le dématérialiser, puis vraiment tranquillement, on est en train de recréer un grand autre, c'est-à-dire un spectateur immatériel et omniscient. Donc ouais, voilà, c'est pour finir ma métaphore binaire sur ce besoin d'un grand œil, un grand œil et non pas un grand œil.
Merci beaucoup. C'est un parfait lien avec ce que je voulais faire, le narrateur omniscient, en tout cas l'observateur omniscient, parce qu'on a souvent dans les visions un peu futuristes, un peu négatives du futur, invoqué l'image de Big Brother. On a toujours l'impression qu'un jour, il y en a un qui allait nous arriver. Et là, j'ai l'impression qu'on l'a trouvé. Le Big Brother, c'est Facebook, sauf qu'on est tous consentants de le nourrir plutôt que d'être forcé d'en faire partie. Et une des phrases que j'entends le plus souvent maintenant, quand les politiciens essayent de dire pourquoi un phénomène a pris une certaine ampleur, ils vont toujours dire « les réseaux sociaux se sont emparés de ça, puis là, c'est devenu une grosse affaire, mais c'était rien avant ». Puis ça me fait toujours rire parce que les réseaux sociaux peuvent pas s'emparer de quelque chose, vous savez. C'est les utilisateurs des réseaux sociaux qui s'en sont emparés, mais on a l'impression que c'est une entité qui est plus grande que nous, qui a un libre arbitre, qui est plus fort que nous, comme une bête qu'on devrait nourrir. Alors voilà, ça c'est assez troublant. Bon, on a abordé plein de choses super intéressantes. Je vais essayer de vous orienter vers quelque chose. Oui, c'est un peu dans la veine de ce que j'étais en train de dire. De plus en plus, on dit « on va aller prendre le pouls sur les réseaux sociaux ». D'un point de vue médiatique, on dit « plutôt que d'aller dans la rue rencontrer des gens, faire un vox pop, on va aller sur les réseaux sociaux ». Puis nous-mêmes, on le fait dans notre vie de tous les jours. « Ah, mais là, les critiques sont super bonnes parce qu'on a lu 2-3 critiques sur les réseaux sociaux » ou « il y a beaucoup de gens dans notre cercle qui parlent d'un sujet, donc on a l'impression que tout le monde parle de ce sujet-là ». Et ça biaise complètement notre rapport au monde. Je me demandais si d'après vous, c'est quelque chose qui est troublant, cette façon-là, un peu anti-intellectuelle, un peu paresseuse, de se dire « Ah, ben plutôt que d'aller vraiment pousser une recherche, je vais aller voir une couple de statues, puis je vais pouvoir rendre compte de ça dans mon média. » Voilà.
Ben, y a plusieurs études qui rendent compte de ça, hein, que sur les réseaux sociaux, on cherche ses semblables. Donc, on est très rarement amis, entre guillemets, avec des gens qui ne pensent pas comme nous. On cherche pas la bisbille. Ah, oui, non, mais c'est des trolls. C'est des trolls, ils nous fatiguent, ils sont tannants, ils pensent pas, ils sont pas là pour corroborer ce qu'on amène, ils sont là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, on les efface. Mais donc, à mon avis, se baser, d'abord, c'est pas tout le monde qui est sur les médias sociaux, ouais, d'abord. Donc, ça, c'est une première chose. C'est sûr que quand on parle de quelque chose comme Facebook, Facebook a beaucoup plus de place, par exemple, au Québec, D'ailleurs, particulièrement au Québec et au Canada, on est très, très, très avide de Facebook. On est parmi un des pays au monde où on est le plus adepte de Facebook en termes là, de pourcentage de population qui est membre. Donc, on est vraiment très, très fort sur Facebook. Beaucoup moins sur Twitter. Twitter reste une espèce de petit fil de presse... entre guillemets, élitistes, dans le sens où ce sont souvent des intellectuels, des journalistes, des experts qui vont encore là chercher des opinions un peu semblables à la leur. Et donc, Twitter est très dangereux justement pour ça. On ne peut pas voir poindre des phénomènes, par exemple, sur Twitter, parce que ce sont souvent des gens qui pensent un peu de la même façon. Donc, essayez pas de prédire une élection. D'ailleurs, la plupart des espèces de recensions qui ont été faites sur Twitter se sont trompées. On ne peut pas se fier à ce genre de médias sociaux-là pour dire l'issue d'une élection. C'est presque sûr qu'on va se tromper. Oui. Je divague un peu, là, mais...
Oui, non, ça me sent. Avez-vous tous les deux le sentiment, un peu comme Guillaume, d'être des défenseurs des réseaux sociaux dans votre cercle, auprès de vos étudiants? Ou...
Ça dépend, parce que moi, j'ai une utilisation assez partielle, honnêtement. Moi, j'y vais surtout par Facebook un peu. Mais je m'aperçois qu'il y a des gens qui s'en servent quand même dans mes classes.
Dans les cours?
probablement. Je ne peux pas tout contrôler ça. Mais en même temps, je pense qu'il est un peu comme ce que tu nous disais tantôt, c'est une utilisation qui est assez partielle, qui est assez ciblée. Puis c'est pas nécessairement tout l'éventail qui est exploité, mais celle dans laquelle ces gens-là se sentent bien. Puis trouve une confirmation aussi. Je pense que ça va un peu avec quand tu disais que les réseaux sociaux se saisissent de quelque chose et on cherche le pouls. Ça va un peu, je pense, avec la volonté bon, de voir un peu où la discussion s'enligne, puis bon, d'entrer dans quelque chose qui est peut-être déjà balisé un peu. Puis, mais en même temps, on sent qu'il y a le potentiel inverse aussi de la dissidence puis de la dissension. Puis ça c'est exploité aussi. Je pense qu'on verra peut-être ce printemps aussi.
Mais c'est marginal, j'ai l'impression.
Oui.
Moi, justement, dans mon cours, dans le cours que je donne à l'UQAM, donc ce sont des jeunes d'une vingtaine d'années, ce qui m'a frappé, c'est à quel point ils font confiance aux médias sociaux. Hein, on vient de le dire, on divulgue toutes nos informations personnelles. Oui, on met tout ça avec grand consentement et dans mon dernier cours, j'ai fait quelque chose d'un petit peu méchant. Je leur ai lu, en fait, on a lu ensemble la politique de confidentialité de Facebook. Ce à quoi ils ont, finalement, ce qu'ils ont accepté en devenant membres de Facebook, parce que la seule façon de montrer notre désaccord avec ça, c'est pas de mettre un petit message sur notre mur qui dit que je suis pas d'accord, puis que si vous recopiez ça, c'est pas bon. C'est de se désabonner. Et c'est la seule façon de signifier son désaccord. Donc, bref, c'était cette espèce de bonhomie-là, de confiance aveugle. Oui, mais ils vont pas faire ça. Je veux dire, c'est mes photos, c'est mes choses. Mais non, ça ne vous appartient pas. Vous venez de piquer votre tante sur le terrain de quelqu'un d'autre. Alors, si cette personne-là décide que ça ne tente plus d'avoir des campeurs, ben vous allez partir, puis toutes vos données...
Ils vont garder la terre tente.
Oui, oui, ben c'est ça. Donc, ça m'a vraiment étonnée, parce qu'après ça, ils se demandent, là, il y a les révélations Snowden, là, vous m'arrêterez si je vais trop loin, mais tout ça, pour eux, c'était tellement, là... c'était presque pas... Oui, c'est pas réaliste. C'était pas... Oui, mais vraiment, là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec nos données? Est-ce que c'est si grave que ça si on se fait surveiller comme ça par le gouvernement? Attends, là! Si moi, je me mets à te suivre dans la rue, là, puis que je rentre dans la librairie avec toi, puis qu'on va aux toilettes ensemble, puis qu'on ressort dehors, ça va tanner, hein? Ça va être fatigant. Ça, oui, la présence physique est insupportable. Mais la présence virtuelle, là, la surveillance virtuelle, ça, ils n'en sont pas très conscients et à la limite, ça les dérange pas tellement. Dieu merci pour Mark Zuckerberg.
Je me fais encore l'avocat du diable, puis on va finir vraiment par penser que je suis comme super pro réseaux sociaux. Là. C'est vraiment juste pour nuancer cette affaire-là, parce que c'est tout récent. Tout récent. Comment?
C'est ton ami Zuckerberg.
Oui, non, mais c'est parce que c'est... On a tendance à démoniser cette affaire-là, puis j'essaie juste de le relativiser, puis dans un moment où, évidemment, le côté contre est comme reconnu de tous, on se retrouve à devoir défendre le côté pour, mais sachez que ma position est plus nuancée que celle-là. Mais en ce moment, en fait, il se passe l'inverse, parce qu'en fait, par Facebook, ils ont accès évidemment à beaucoup, beaucoup de données. Et ces données-là, en fait, étaient beaucoup utilisées par des chercheurs pour qui, en fait, eux, c'était génial parce que c'était de l'échantillonnage pour faire avancer leurs recherches. Et que tout à coup, quand cette affaire-là est sortie, bien là, ils utilisent nos données, puis ils ont obligé de refaire leur politique de confidentialité. En fait, ça s'est fait beaucoup aussi au détriment de chercheurs et d'universitaires qui essaient de faire avancer des... Et donc, je me méfie, moi, de cette affaire-là de Big Brotherisation. Je veux dire, c'est vrai que, d'une part, on perd propriété, mais je veux dire... Il faut juste se méfier du discours Darth Vaderisant de cette affaire-là, où on voit tout noir. Alors, le plus gros, ce scandale-là des données partagées, en fait, c'était d'abord et avant tout des chercheurs universitaires à qui on avait confié des rapports d'utilisation et de comportement pour des études sérieuses. Donc voilà, c'est juste ma petite nuance que je voulais apporter pour... Quelqu'un qui triche déjà.
Ben oui, on peut attaquer, on peut s'ouvrir vers vous. Allons-y.
Ben oui, on brise ta structure.
Allons-y.
Ben, les politiques de Facebook, en fait, quand je me suis inscrit il y a de cela peut-être 6 ou 7 ans, ont changé depuis.
Bien sûr.
Puis j'ai jamais accepté, j'ai jamais posé sur le bouton quelque part où est-ce que je disais ah oui, ok, j'accepte les nouvelles politiques.
Non, ils peuvent changer quand ils veulent et on accepte d'emblée si on reste abonné. C'est comme s'ils voient ça.
Si j'aime pas leur nouvelle politique, je me désabonne.
C'est ça.
Ça, on n'est pas game parce qu'on a une vie en.
tu vas perdre ton histoire,
c'est que,
ta narration.
C'est qu'avec les médias sociaux, il y a des attentes qui se créent. Moi, j'appelle ça une espèce d'anxiété virtuelle. C'est-à-dire qu'on se crée une communauté qui s'attend à ce qu'on partage, et ensuite, on s'attend, ce dialogue-là, finalement, crée des attentes. Et donc, on peut faire l'essai. Vous l'avez peut-être déjà fait. Moi, en tout cas, dans un de mes cours de maîtrise, à un moment donné, j'avais fait ça. On avait fait un sevrage. Et puis, quelle angoisse, mon Dieu! Quels anniversaires on allait oublier? Quel événement marquant, hein, le faux mot, hein, fear of missing out, là, dans toute sa splendeur, on allait vraiment passer à côté de notre vie. Puis finalement, on revenait une semaine plus tard sur Facebook et c'était absolument rien passé. Non, les gens n'avaient même pas remarqué qu'on n'était pas là. Hein, donc,
c'est rendu que quand on oublie la fête de quelqu'un, on dit « c'est ta faute, tu avais juste à la mettre sur Facebook ».
C'est ça! C'est pas sur Facebook.
Mais j'avais vu un truc, justement, cette espèce de reconnaissance dont on parlait tantôt, de cette quête d'approbation et de validation. C'était en fait même biologique et ça sécrétait quelque chose dans le cerveau. Puis il comparait le sevrage des médias sociaux à un sevrage avec le crack. Pas juste parce qu'on a besoin de regarder notre téléphone, mais vraiment parce qu'il y a quelque chose que notre cerveau sécrète à travers ça qu'on perd. Ouais.
Est-ce qu'il y a un côté, moi, ce que j'appelle déversoir, c'est-à-dire, est-ce que ça ne permet pas, justement, à certaines personnes de laisser aller là ce qu'on laissait aller autrefois dans les lignes ouvertes? Bon, je sais que ça existe encore, mais disons que c'était plus courant à une autre époque. Est-ce que ça peut être aussi une façon de laisser sortir le méchant sur les réseaux sociaux? Parce qu'on sait que c'est souvent les gens qui se prononcent beaucoup. Bon, les commentaires sur l'affaire Joël Legendre en ce moment, c'est beaucoup des gens qui ont des choses négatives à dire de tout ça. Mm-hmm. Donc, quelque part, est-ce que ce n'est pas mieux qu'ils canalisent cela qu'ailleurs?
Parce qu'en même temps, c'est peut-être le double sens de l'écran aussi. L'écran, c'est ce sur quoi on projette un peu quelque chose, mais ça peut aussi être un intermédiaire entre soi et le message. Puis même sans anonymat, juste si on n'est pas quelqu'un qui n'est pas un nom connu, on peut s'en permettre quand même par cette tribune-là. Fait que c'est quand même... Bon, il y a comme une fonction quasiment de catharsis en même temps. Là. Si je vais faire le lien même avec... si je disais tantôt la tragédie grecque, une des raisons pour lesquelles on se pointait là, c'est que bon, pour vivre aussi par personnages interposés, puis bon, s'exposer à des choses, je veux dire, qu'on ferait pas soi-même, mais là, il y a comme une tribune qui est là, puis ça permet juste d'entrer, de participer, puis de se fondre dans la foule aussi, puis bon, de pas... Justement, l'affaire Joël Legendre, c'est un bon exemple, là, c'est... Il n'y a pas tant de commentaires que ça qui ressortent au nombre qu'il peut y avoir là-dedans. Ouais. Ça permet peut-être de se lâcher là, c'est un peu.
La prolifération. Mm-hmm.
Moi, ce que j'ajouterais là-dessus, c'est que le web n'est pas neutre. Donc, il y a des gens qui font le web, il y a des gens qui écrivent, qui conçoivent les plateformes. Il faut se demander qui sont ces gens-là aussi pour se demander...
Sans parler des algorithmes.
Non, évidemment, évidemment. Mais il y a des gens qui les créent, ces algorithmes-là, justement. Récemment, on m'avait demandé de me prononcer sur la question du féminisme en ligne, par exemple, et de toute la misogynie entourant les femmes qui jouent aux jeux vidéo, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. On pourrait aussi donner l'exemple de Wikipédia. Wikipédia, on se fie souvent, en tout cas le maire Tremblay semble le faire, on se fie souvent à l'information qu'on retrouve dessus, mais il faut savoir qui la met là. Et de 80 à 90 des gens qui sont des éditeurs de Wikipédia sont des hommes jeunes, blancs, occidentaux. Ce qui fait qu'on retrouve à peu près juste des articles, c'est-à-dire qu'il y a plus d'articles qui touchent, par exemple, l'Antarctique que toute l'Afrique, parce qu'il n'y a personne qui s'intéresse réellement à cette information-là, donc elle n'est pas en ligne. Donc, il faut juste se questionner un peu sur ce qu'on retrouve en ligne aussi. Et dernièrement, pour la Journée des femmes, il y a eu toutes sortes de projets pour essayer de contrebalancer. Il y a très, très peu aussi, proportionnellement parlant, d'artistes femmes qui font partie des pages de Wikipédia. Donc, ça pour dire qu'il y a vraiment... c'est pas... Quand on dit un miroir, là, j'ai un peu de difficulté avec ça. Faut regarder qui a fabriqué le miroir, parce que derrière le miroir, il y a quelqu'un qui cherche l'angle qu'il trouve le plus satisfaisant. Donc,
j'aurais aimé ça vous entendre parler d'amitié. Qu'est-ce que ça veut dire, l'amitié, à l'ère Facebook? Est-ce que ça existe encore? Là aussi, j'ai l'impression qu'on
démonise... D'ailleurs, on n'est pas amis Facebook. Hein?
Non.
C'est un peu déplorable.
On va régler ça. J'ai l'impression que ça veut dire quelque chose encore, puis qu'on a tendance à démoniser aussi cette idée-là d'amitié. Puis on a de plus en plus, en tout cas, je devrais peut-être dire « on peut développer des relations d'amitié avec des gens qu'on n'a jamais vus en vrai. On peut avoir même des échanges intellectuels avec des gens qu'on n'a jamais physiquement rencontrés. Donc, il me semble que peut-être qu'au début, ça voulait dire n'importe quoi, puis qu'on disait « oui, des amis Facebook », puis que tranquillement, on est entré justement peut-être de faire du ménage dans tout ça, puis que peut-être la notion d'amitié recommence à dire quelque chose. Je vous lance ça, là. Si...
C'est toi le défenseur de Facebook.
C'est moi? Bon, je me retrouve tout le temps à défendre des positions intenables. Mais je pense que ce qui a heurté beaucoup de gens, puis même chose avec le bouton « j'aime », c'est l'emploi de termes qu'on voudrait... pas restrictif, là, mon Dieu, mon vocabulaire.
C'est comme quelque chose de pur.
De spécial, puis d'important, et qu'on a comme brandé pour mesurer des affaires qui sont très génériques. Mais pour moi, c'est juste une question de vocabulaire. Au lieu d'appeler ça des relations, on appelle ça des amis.
Des correspondants. On avait des correspondants quand on était jeune.
Ce que les détracteurs reprochent un peu à Facebook, c'est qu'il n'y a pas de gradation dans le terme amitié. C'est que tout le monde se retrouve ami. Donc, le voisin, le collègue du primaire, notre meilleur ami et notre sœur, tout le monde...
Ce qui gêne, c'est le mot ami.
Oui.
C'est ça.
Oui. Mais en fait, c'est qu'il n'y a pas de gradation, c'est ça, dans l'échelle d'intimité. C'est que tout le monde se retrouve un peu pris dans le même bloc et que là, il faut départager.
Mais ça, c'est une bonne affaire parce que moi, je me souviens de l'ère MySpace où on avait nos amis puis on pouvait avoir comme notre tableau d'honneur d'amis. Pour ceux qui ont été sur MySpace, qui se souviennent de ça, ça fait des jaloux puis ça fait comme des affaires où on négocie. Puis moi, j'avais été en voyage puis j'avais croisé Dumas, le chanteur que je sais, ce qui existe encore, j'espère qu'il est très gentil. On avait passé un super bon moment ensemble. Et en fait, il avait comme cessé un peu mon ami quand il m'avait dit, ben hey, c'est le fun, je vais te mettre sur mon tableau. C'était une récompense, tu sais. Puis là, tout à coup, tu sais. Puis, mais le pire, c'est que j'étais plus jeune, puis j'en avais ressenti une certaine, tu sais, fierté au début. Je fais, ah, wow, je suis sur le tableau, sa page est quand même vue. Et donc, c'est une bonne affaire, vraiment, qu'il n'y ait pas de gradation, parce qu'il y a ce truc-là qui est sacré, qui est complètement absurde, et puis j'ose n'imaginer qu'est-ce que ce serait dans des cours d'école pour un enfant près de chez vous.
Mais il y en a une gradation sur Facebook. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de petit tableau des amis avec lesquels on interagit le plus. Ouais. Donc, ce sont les top amis.
Est-ce que tout le monde top voit friends. Les mêmes?
Tout le monde voit les mêmes?
Dans le sens, l'enregistrement perd toutes ces données-là super importantes. Dans le sens, parce que moi, des fois, je vais sur ma propre page pour voir sur mon wall, puis là, je me fais, ah, mon Dieu, mais oui, c'est comme 12 personnes avec qui j'ai beaucoup parlé. Oui. Mais là, mettons, toi, tu viens sur ma page, tu vas-tu voir ces 12 mêmes... Non, c'est généré au hasard. C'est des algorithmes, oui. Ça va plus peut-être nos amis en commun.
Non, pas forcément.
Non,
pas forcément.
Non,
mais j'ai fait le test récemment. J'étais sur la page de quelqu'un avec lequel je suis amie, hein? Facebook, mais que je ne connais pas tellement dans la vie. Et j'ai regardé avec qui elle interagissait le plus, justement, pour comprendre... Hein? C'est intéressant. Mm-hmm. Comprendre son cercle d'amitié virtuelle pour essayer de voir.
Ça peut révéler des choses.
Ben, tu sais, ça me permet...
Je veux pas que ma blonde la sache que je chatte avec Juliane Côté.
Je suis vraiment désolée. Ce sera su. Il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas divulguer sur Facebook. Et on perd un peu le contrôle de ça. On ne s'en rend pas compte, mais c'est pas nous, justement, qui décidons des statuts qu'on voit. À peu près, on voit... Il y a des études qui se contredisent là-dessus, mais à peu près... Après, 29% des statuts de nos amis sur Facebook. Ça, c'est très peu, finalement. Il y a 70% des gens que vous côtoyez virtuellement sur Facebook dont vous ne voyez ou vous ne verrez jamais les statuts. Et ça, c'est l'algorithme de Facebook qui décide ça.
Mais est-ce qu'on voit 29% qu'on est 300 ou 2000 amis?
Absolument.
OK.
Absolument. Oui, c'est 29% de trafic, finalement, sur notre mur. Et ça dépend de toutes sortes d'affaires. Si une fois, vous avez parlé d'une petite église que vous avez vue dans le village de Saint-Côme, ben l'ami que vous avez qui vient de Saint-Côme, c'est drôle, hein? Il va revenir plus souvent dans votre fil Facebook. Donc, c'est ce genre...
L'algorithme veut mon bien, là, somme toute.
Toujours. Oui. Facebook, tu sais, c'est un grand ami, finalement.
Est-ce qu'on ne serait pas alors tous, d'une certaine façon, des gestionnaires de communautés? J'ai l'impression qu'à des degrés divers, on est tous en train de gérer une communauté. On se demande ce qu'on va leur dire, comment on va leur dire, dans quel ordre, comment on va rephraser le réel sans arrêt. Donc, ce sera peut-être un métier qui sera assumé par beaucoup de gens bientôt.
Gestionnaire de communauté, c'est un métier. Là.
C'est un métier, oui. Oui,
quand
oui, tout à fait.
Je cuisais...
disons, des apprentis gestionnaires de communauté.
Quoi. Quand je cuisais au VV Tavernant, j'avais été surpris. C'est là que j'avais rencontré mes premiers gestionnaires de communauté. Puis je trouvais ça fascinant comme nouveau métier. C'est des gens qui sont chez eux. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas les imaginer autrement qu'en bobette, en t-shirt sale, qui tout à coup, tu sais, deviennent la voix de Whippet. Lui, il était la voix de Whippet. Okay. Puis c'est ça, il représentait Whippet de chez lui en demandant « Et vous, mettez-vous votre Whippet au micro-ondes? » Et je trouve ça fascinant comme nouveau métier.
Il y a un débouché ici. Là.
C'est de créer des conversations constantes. Parce que c'est ça que je mentionnais tantôt en parlant de Birdman. C'est là que je parlais du public passif, entre guillemets, du théâtre. C'est que l'auditoire des médias sociaux cherche constamment cette interaction-là, cette conversation-là. Oui, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? T'sais? Donc, c'est comme ça qu'on réussit à faire exister les gens sur les médias sociaux, à travers leur opinion. Donc oui, pour revenir à la question initiale, bien sûr, il y a des dérapages. Bien sûr que ça pousse... En fait, c'est un peu la nature de la bête. Ça pousse les gens à prendre parti. Ça pousse les gens à avoir des opinions très tranchées. Oui. Ça serait plate autrement. Donc, évidemment, il s'accompagne toutes sortes de...
Débordements.
Oui, oui, c'est ça. De radicalisation. Qui est un peu... qui vient avec, finalement. Là.
On peut peut-être ouvrir un peu à vos questions, si vous en avez. Ce serait le moment de... Oui. D'ailleurs, on voit une chose dans Birdman que moi, je n'ai pas encore vue dans la réalité, c'est-à-dire des gens filmer la représentation au moment où elle se déroule. Donc, bon, peut-être ça arrive dans les théâtres montréalais, mais je n'ai pas encore vraiment été témoin de gens. Des gens qui écrivent un texto, oui, mais qui filment la représentation pour en mettre un bout sur YouTube. Ça.
Mais on dit souvent que notre niveau d'attention a énormément diminué dans les dernières années. Et justement, moi, je suis journaliste et le journalisme essaie toujours de se renouveler, de trouver une nouvelle façon d'attirer l'attention des gens parce qu'il n'y a plus personne qui veut lire un papier de 10 pages. Il faut absolument que ça soit punché, court, rapide, facilement transmissible, justement, sur les réseaux sociaux. Et donc, la capacité d'attention, il y a vraiment des études qui corroborent ça, a énormément diminué. Donc, Est-ce que ça se reflète au théâtre? Ça serait une bonne question. Je ne sais pas si les dramaturges se posent cette question-là. La capacité d'absorption et d'attention de leur auditoire, parce que ça, c'est un phénomène tout à fait palpable, tout à fait tangible. Les gens ont moins de temps et moins d'énergie à consacrer à un seul objet culturel de contenu. Donc, veux pas, ça doit peut-être paraître quelque part, je sais pas. C'est sûr que, comme on l'a vu dans le film, c'était un peu grossi, mais effectivement, on voyait l'auditoire qui voulait participer. Ils sont habitués, l'auditoire, là, à ce qu'on leur demande toujours leur opinion, puis à ce qu'ils produisent du contenu en même temps que le contenu lui-même. Donc là, oui, pardon. Donc là, dans le film, c'est une des choses qu'on pouvait voir. Oui, allez-y.
C'est comme en conversation.
Oui, hein? Mais c'est ça, c'est un sur un, les réseaux sociaux.
Non, mais je poursuivrais là-dessus en disant, je pense aussi que les créateurs sont en train de modifier leur manière de créer.
Mais ça serait ici qu'on pourrait poser cette question.
Parce qu'on parle des spectateurs, mais je pense que les créateurs aussi sont en train de réduire... C'est drôle parce que il n'y a pas longtemps, je suis allée voir la pièce Richard III, TNM, qui dure 3 heures. Et quand Lorraine Pintal a annoncé que la pièce durerait 3 heures, il y a eu vraiment dans la salle un « Oh! »
Et pourtant, ils ont coupé une heure.
Shakespeare, ça fait longtemps. Mais les nouveaux, ceux qui arrivent, les auteurs qui écrivent maintenant...
Oui, mais Shakespeare, ça se faisait avec des barbecues, puis on jasait à ce moment-là. Non, mais quand même, pas perdre de vie, dans le sens que les gens étaient l'attention était diffuse aussi, là. Non, exact.
De plus en plus, comme aux États-Unis, il y a beaucoup de concours d'écriture de pièces courtes. 10 minutes et moins. Et en France, ça s'en vient parce que j'ai vu 2 concours passer de textes de 10 minutes et moins. Donc, c'est présent.
Du Twitter théâtre.
Ouais. YouTube. C'est comme une, tout devient une vidéo de YouTube, finalement.
Donc, les créateurs aussi.
La peur d'ennui existe depuis longtemps, mais elle a peut-être pris une vitesse particulièrement grande depuis l'avènement des réseaux sociaux, où on consomme encore plus de choses courtes et fragmentées tout le temps.
Mais en même temps, il y a des, je dirais, la Shakespeare de 6 heures de Joly, je pense que c'est Henri VI, qui dure 8 heures, il y a des pièces aussi qui sont super contemplatives.
Le Roi boiteux, moi, c'est une de mes plus belles expériences théâtrales et ça dure 8 heures, justement. Ça, c'était fantastique, ça.
Non, mais ça n'a pas été écrit l'an dernier. Non. Ça a été écrit en 70. Ouais.
Tableaux, des scènes courtes.
Moi, je m'interroge tout le temps en me disant, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, puis l'Internet et tout ça, ça fait que notre attention est constamment sollicitée, tu sais, des secondes, 5 secondes ici, je clique 5 secondes là.
Puis dès qu'on s'ennuie, on zappe, on pense à autre chose sans arrêt.
Peut-être on est influencé par ça, on a peur d'ennuyer, ça c'est sûr. Mm-hmm. On a toujours eu peur d'ennuyer, même avant. Tous les créateurs veulent avoir l'attention de leur spectateur. Mais moi, ce que je trouve le paradoxe, c'est que tout de même, malgré tout ça, nos vies se déroulent 24 heures à la fois. Tu sais, il y en a une linéarité de nos vies, quand même. Il y a l'instantanéité, mais il y a quelque chose qui... Puis quelqu'un qui a mon âge, elle sait, tu sais, que tu veux pas, mais ça s'en va de même. T'es pas sur place à faire tchik-tchik, là.
Oui.
Ta vie, là, elle se déroule, puis elle avance, puis c'est inéluctable.
Et d'ailleurs, l'information continue d'être classée sur Facebook de manière chronologique par rapport à d'autres plateformes qui ont eu moins de succès et qui plaçaient le contenu un peu n'importe comment, comme Tumblr et compagnie.
Moi, j'ai le sentiment qu'il y a ces deux phénomènes-là qui continuent d'être en tension l'un avec l'autre, mais que la linéarité puis la chronologie, puis prendre un personnage puis le mener de A à Z, il y a encore un besoin de ça.
Ouais.
On a besoin de se projeter dans ce récit-là qui demeure notre réalité de vie, quand même. Malgré cette illusion de l'instantanéité puis de la fragmentation à pu finir, mais il y en a une linéarité de nos vies.
Parce qu'on parle beaucoup du vieillissement du public au théâtre. Si on renouvelle pas ce public-là parce que justement, il est plus captivé par son téléphone ou par Facebook que par une linéarité ou une vie, il y a peut-être des questions à se poser. Là, c'est sûr que les questions qu'on se pose là, il y a des gens qui se les posent dans tous les théâtres de la province en ce moment.
Ouais.
Vient plus vite.
On aime à traiter plusieurs choses simultanément du regard, même si c'est dans un récit linéaire. Je pense que la scène est pensée et prend vie de cette façon-là, un peu. Je pense que tout le caractère plus esthétique suit ça, pas juste le côté récit.
Ça, je trouve, là, on parle d'instantané, puis parce que par moment, on a déjà entendu que la culture actuelle, c'est comme une culture de l'immédiat. Ça, moi, c'est un mot qui est. Ça n'a jamais vraiment fonctionné pour moi, parce que au contraire, ça peut pas être plus média que ça. C'est comme, justement, peut-être une façon de comprendre aussi la fragmentation comme une manière de projeter de plusieurs façons à la fois un contenu, tout en gardant encore là l'attention dont vous parliez tantôt, une certaine linéarité, mais qui peut-être fait plus de place à un éclatement en même temps, mais qui va multiplier les intermédiaires, les écrans, entre autres.
Tu es en train de parler à ta mère sur Internet pendant que tu parles à ton chum dans la vraie vie. Donc, t'es fille et blonde en même temps. C'est un morcellement des identités aussi.
Mais somme toute, le théâtre résiste assez à ça, je trouve, encore. Alors que, bon, j'écoute un peu plus de télé récemment, puis je vois beaucoup, beaucoup de textos qui apparaissent à l'écran. Les scénaristes de télé utilisent beaucoup, beaucoup la présence des réseaux sociaux et du téléphone, tout ça. Donc, je trouve que, somme toute, au théâtre, on
pourquoi tu dis résiste comme si c'était mal?
Non, Non, ben là.
Non, mais c'est parce que, ben, parce que dans la discussion, en ce moment, il y a cette connotation bien mal qui est en train de s'installer.
Ben, j'ai l'impression que pour c'est pas moi, c'est. Bien, mais je pense que oui, il y a des gens qui perçoivent ça comme un envahissement oui. et qui ont le sentiment d'être en train de résister. Ouais. Ils sont partout, les réseaux sociaux, le téléphone, il est partout, l'ordinateur. Mm. Est-ce qu'on va au théâtre pour. Mais,
mais l'éclatement des structures là, est quand même un truc qui date de, tu sais, du... C'est quoi? Les lauriers sont coupés, là, mettons, là, le premier truc à un type, une narration éclatée. Tu sais, l'éclatement des formes est un truc depuis toujours, puis... Encore une fois, je me retrouve à défendre les médias sociaux, mais c'est pas du tout ça. Je veux juste que c'est parce qu'ils deviennent facilement la tête de Turc de beaucoup de choses qui sont des trucs qui datent de beaucoup, beaucoup avant. Puis je suis certain que à l'invention du montage au cinéma, il y a dû avoir des gens qui se sont méfiés contre le montage. Mmh. T'sais. Donc.
Encore.
Mais là, Christian, tu dis qu'aller au théâtre, c'est un geste politique déjà. Prendre position.
Mais j'aimerais faire du pouce justement sur la question du visuel, parce que je viens juste de me pencher là-dessus, justement, tout dernièrement, en fin de semaine, là, je livrais une chronique sur ce que les adolescents font en ligne. Et ce qu'on constate, c'est que la plupart des médias sociaux qui sont les plus intéressants pour les adolescents, c'est les médias sociaux visuels. Donc, on parle de Vine, on parle de Snapchat, on parle de façon... Il y a trois mots, hein? Il faut que ce soit anonyme, éphémère et... visuel. Donc, tout ce qui... Même des textos, maintenant, ont besoin d'être accompagnés, par exemple, d'émoticônes. Quand on envoie un texto sans émoticône, on est bien fâché. Là, il se passe quelque chose, on n'est pas de bonne humeur, on est raide. Ah, là, vraiment, là, on est à pic. Mais l'émoticône permet de donner une clé de lecture, permet de montrer un peu l'émotion, l'humeur de la personne, etc. Donc, les jeunes, vraiment, s'inscrivent dans un rapport sonore à leur communication, visuel plutôt que sonore. Moi, quand j'étais jeune, je parlais des heures au téléphone. Maintenant, c'est plus de cette façon-là qu'ils consolident leur appartenance au groupe, c'est vraiment à travers le partage d'images. Si je vais au café me chercher un café, je n'écris pas « je suis partie chercher un café ». Je prends une photo de mes baskets dans la rue en train de m'en aller chercher un café. Et donc, c'est comme ça maintenant que les jeunes communiquent. Donc, effectivement, je sais, de là à savoir si ça va influencer les dramaturges à l'avenir, ça, c'est pas moi qui peut. Mais en tout cas.
Des photos, par exemple, qui témoigneraient des choses qu'on vivrait.
C'est un simple constat, en tout cas. C'est ce qu'on constate
plus
pour le
mots,
moment.
Plus de mots. Ouais.
Ça rappelle.
Oui.
Par rapport à ça, au théâtre, comment. Parce que moi, je connais pas du tout ton travail dramatique, j'habite devant ça. Puis je me demande comment on peut mettre en scène ce sujet-là. Ouais. De quelle façon on peut parler des médias sociaux sans que ça soit nécessairement cliché ou que ça soit.
Ouais.
Ouais,
c'est toutes les questions qui me
répondent, mais je ne saurais trop vous référer au dossier du dernier numéro de la revue.
Mais c'était toute la question qui me hantait quand j'écrivais cette pièce-là, parce que justement le danger de faire une pièce où ça finit par prôner « achetez-vous un âne puis une maison faite en bas de grange », puis la vérité est là, alors que c'est juste une autre image. Donc, c'est difficile d'en parler sans si t'as pas vu la pièce. Mais il y a un truc que je voulais ouvrir sur une question. Il y a un truc dans la forme que je voulais que ça évoque le truc. Mais justement, c'est le truc dont je parle dans le texte, dans la revue Jeu en question, puis que j'ai un peu abordé tout à l'heure. Rapidement aussi, dans l'écriture, on se rend compte qu'on ne peut pas parler des médias sociaux. C'est comme si je disais, je veux faire une pièce sur la télévision. Mais tu sais, la télévision, c'est sûr que ça crée des comportements, mais à la base, c'est un média, là, et c'est un peu tout. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on a changé le mot « médias sociaux » pour « réseaux sociaux ». Pour moi, c'est vraiment un média.
Je peux me permettre, c'est deux choses complètement différentes, c'est ça. C'est que « médias sociaux », c'est un partage de contenu. « Réseaux sociaux », c'est connecter des gens. Donc, par exemple, YouTube est un média social, Facebook est un réseau social.
Ah, ben, merci beaucoup. Donc,
encore mieux.
Donc la pièce, en fait, vraiment tantôt l'intervention de Philippe, c'était comme ma pièce. Là. C'est des gens qui se racontent et qui refaçonnent leur identité à mesure par des principes de mimésis, parce qu'ils vont constamment remettre leur identité en mouvement pour être unique et être comme les autres en même temps. Donc c'est cette affaire-là qui est en...
La pièce est publiée chez Lemeac.
Comme des photos. Mais ça, c'est aussi de la mimésis dans le sens où...
Ça n'en est pas
vraiment. Il y a personne qui s'exprime comme ça pour vrai. C'est une impression de...
C'est comme une traduction, en fait. Pour moi, c'est une traduction de Facebook.
En même temps, quand on voit la pièce, on a l'impression de lire des jeunes personnes qui nous parlent.
Oui, parce qu'ils parlent. Oui, parce qu'ils font tout ça pour le spectateur aussi. Tout ce qu'ils font, ils le font pour le public. Et puis, j'ai obligé de te dire un punch, mais c'est pas vraiment un punch. Là. Il y a un personnage qui se suicide à la fin, puis au début, dans la mise en scène, c'était fait comme si c'était triste. Puis j'essayais d'expliquer à Claude que c'est pas triste parce que c'est pas « faites attention, les jeunes, les médias sociaux vont vous mener à mourir ». Puis c'est dangereux. Donc, c'était pas d'aller là, mais c'était de que ce personnage-là se mette en scène jusqu'à se suicider pour nous plaire à nos spectateurs. C'est comme, tu sais, dans le meilleur des mondes, on finirait par sentir que cette fille-là est morte pour que je passe une belle soirée au théâtre.
C'est l'apothéose.
Oui. Puis, voilà, donc c'est un peu comme ça, mais j'ai vu qu'elle était en vente à l'avant.
C'est excellent. Avez-vous d'autres questions? Andréane, tu avais levé ta main? Oui? Ça pourrait être notre dernière, ça. Pour mettre un peu de pression.
Sans pression.
Oh, elle est en deux volets. Oui. On n'a pas encore vu de statues apparaître sur les murs ou de... De manière plus subtile, plus profonde.
Puis ils sont là dans les spectateurs, même s'ils sont pas là pendant, je veux dire, moi j'ouvre mon réseau Facebook puis je sais ce que tout le monde a pensé de la pièce, dans le sens que les gens, ils consomment déjà en tant que micro-critiques de théâtre, tu sais, je vois des gens faire leur propre top 5, telle affaire de scénographie brillante, donc elle est pas là pendant, mais c'est comme si la consommation se faisait... de voir l'œuvre trouvait son sens à travers ma communion avec mon réseau, de pouvoir en parler, comme si de le recevoir et de réfléchir avec l'œuvre, c'était trop, pas anonyme, mais immatériel.
Et ça arrive même très rapidement, ça arrive même avant les premières médiatiques maintenant. Les gens s'empressent, s'ils ont eu la possibilité d'aller voir l'une des deux ou trois premières représentations, de sortir rapidement, alors qu'au cinéma, il y a cet embargo-là, impossible.
Après la première de 5 visages, tu me rappelles, on était tous contents, tu sais, qu'on buvait du vin, puis on est dans le lobby de l'Espace Go. Et puis Claude Poisson lisait live les critiques, puis on célébrait les premiers commentaires qui sortaient, mais je veux dire, c'était après. La première, là, tu sais, c'était comme 2 heures après la première, on avait déjà un feedback.
Bienvenue dans le 21e siècle.
Oui.
On parlait aussi du contrôle qu'il y a derrière le contenu, mais aussi, je sais pas si c'est une utopie, l'idée de la démocratisation, l'idée de communauté.
Oui. La possibilité qu'il y a de retrouver des gens qui ont les mêmes valeurs que nous sur la planète entière, quoi, de se relier à des gens qui pensent comme nous. Ça, c'est extraordinaire. Ça permet justement des mouvements de se fédérer. On a dit que ça avait aidé à l'instauration du printemps arabe et ça a probablement aussi aidé beaucoup tout dans le mouvement, tous les coming out qu'il y a eu sur YouTube qui ont permis à des jeunes d'avoir le courage de faire leur coming out et d'en donner à d'autres ce même courage-là aussi. Ça joue un rôle extrêmement positif qui est un beau contrepoint à toute la démonisation qu'on peut faire.
Je ne sais pas qui l'a dit tout à l'heure, mais c'est sûr qu'avec les médias sociaux, tout le monde devient son propre média. Donc, tout le monde a tout d'un coup un porte-voix. Et tantôt, je parlais de la vidéo du petit garçon, là, du bébé qui mord le doigt de son petit garçon.
On va tous aller voir ce soir.
Que vous allez peut-être aller voir, mais...
C'est quoi dans la France, Freddy?
Bites, je sais pas quoi, là. Oui, je vais retrouver
vous
ça.
Vous allez la retrouver.
On va vous donner, vous envoyer les références. Mais tout ça pour dire que ces parents-là, là, ont eu au-dessus, je pense que c'est 10 millions de vues de cette vidéo-là. Il n'y a pas un média traditionnel qui pourrait se targuer d'avoir rejoint autant de monde.
Et là, à ce niveau-là, c'est un salaire annuel, là. Ça vient avec des sous
probablement
à partir d'un certain niveau.
Oui, absolument. Il y a des clics qui sont reliés à la publicité, là. Mais on ne peut pas prévoir ce genre de choses-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une facilité de rejoindre un nombre incommensurable de personnes avec ces médias sociaux-là. Et c'est justement ce qui confronte les médias traditionnels qui travaillent si fort pour obtenir l'attention d'un public, somme toute, assez circonscrit. Là, tout d'un coup, n'importe qui peut... Oui, oui.
C'est un vrai star système en soi, YouTube. Là.
Absolument.
Avoir un nombre X d'abonnés, chercher à avoir un auditoire captif. Ouais. Oui, ça, c'est peut-être pas un bon exemple. Il y a des gens qui ont des canaux sur YouTube et qui ont quand même une ligne éditoriale.
On appelle ça du lolcat. C'est toutes sortes de... Le chat fait vivre Internet. Hein? Je veux dire, c'est ça
merci
qui
à la
fait...
Raspéline.
Non, mais c'est ça qui fait que qu'on continue là, d'aller consommer ce genre de contenu un peu superficiel-là. Tu sais.
Mais... pas de quoi tu parles.
Non, on n'y va jamais. Non, on fait jamais ça. C'est les autres. Bon. Mais c'est ceux qui sont pas là. Mais bref, je ne sais plus où je m'en allais avec ça.
Mais ça pourrait être le mot de la fin.
Ça pourrait être le mot de la fin.
Ouais, parce que je suis sûr qu'on va pouvoir discuter informellement ensemble de ces sujets-là. J'aimerais simplement vous faire des petites annonces rapides. La 61e entrée libre de jeu va avoir lieu le mercredi 27 mai 2015 à 17h. Ben oui, déjà.
La course au présent.
C'est fini.
Voilà, on est là-dedans. L'événement Facebook n'existe pas encore, mais ce ne sera pas long. Au QG du Festival Transamérique, donc, ce sera animé par Andréane Roy, qui est avec nous ce soir, qui est stagiaire à la rédaction de jeux. Et la discussion aura pour thème matière en scène, gestes politiques ou poétiques ou politiques. Les invités seront Mélanie Demers, Jonathan Lamy, Mélanie Boucher et Nadège Grémeyer-Forget. Mais notre prochain rendez-vous, parce qu'il y en a un autre encore plus tôt que ça, il va avoir lieu dans un mois. C'est le lancement du numéro 154 de jeu, dont le dossier, co-dirigé par Catherine Cyr et Katia Montaignac, est consacré à la nourriture en scène. On se retrouve donc à la Licorne, le lundi 13 avril à 17h, juste avant une représentation de la pièce. Vous allez voir, on est concept cuisiné avec Elvis. Notez que cupcakes et mousseux seront servis. Voilà. J'aimerais remercier mes invités pour cette belle discussion, ordonnée puis désordonnée. On adore ça. Et puis, merci à vous d'avoir été là. Et puis, vous pourrez écouter tout ça sur le site de Radio Spirale. Ce sera disponible. Merci beaucoup.
Merci.
Radio Spirale.